Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, personnages de la semaine. Et aujourd'hui, place à un des entraîneurs de football les plus fascinants du monde. Et je ne mâche pas mes mots. Ange Postecoglou, découvrons le portrait de l'Australien qui vient de remporter à la tête de Tottenham l'Europa League. Une performance qui malheureusement ne lui garantit pas un avenir à la tête de l'équipe londonienne l'an prochain. On revient sur son parcours incroyable avec François Vantôme.
Ange Postecoglou, au-delà de ses succès sur le terrain, a une vie privée qui reflète ses valeurs et sa passion pour le football. Né le 27 août 1965 à Athènes, en Grèce, il a émigré en Australie avec la famille à l'âge de 5 ans. Cette expérience de l'immigration a profondément influencé sa perspective sur le monde. Postecoglou est connu pour être un homme de famille dévoué. Il est marié à son épouse Georgia et ensemble, ils ont 2 enfants. Il ne cache pas que sa famille est sa priorité. En dehors du football, Postecoglou est un homme qui aime la simplicité et recherche des moments de tranquillité. Il apprécie les activités en plein air, notamment la marche et le jardinage. En tant qu'immigré, il soutient des initiatives visant à aider les jeunes issus de milieux similaires à réaliser leur potentiel à travers le sport. Il a souvent exprimé l'importance de donner en retour à la communauté qui lui a tant apporté. Enfin, Ange se décrit comme un optimiste et un combattant.
François, le football, c'est sa vie et c'est à Melbourne qu'il a débuté en tant qu'entraîneur, mais son ascension a été assez rapide en Australie.
En tant que joueur, Ange Postecoglou a évolué en tant que défenseur central et a commencé sa carrière semi-professionnelle avec le South Melbourne FC. Postecoglou a pris les rênes du même club en 1996 après qu'une blessure au genou eut mis fin prématurément à sa carrière de joueur à l'âge de 27 ans. Son parcours victorieux d'entraîneur à South Melbourne a été le tremplin de sa carrière. En 2010-2011, lors de sa deuxième saison à Brisbane, les Roars remportent le doublé Premiership Championnat. Non seulement ça, mais les Roars deviennent sans doute la meilleure équipe de club australienne de l'histoire avec une série de 36 matchs sans défaite. Un record. Après un bref passage au Melbourne Victory, Postecoglou s'est vu proposer le poste le plus élevé d'Australie, celui des Socceroos. Après avoir remporté la Coupe d'Asie 2015 avec l'Australie, il a fait face à des critiques suite à des résultats mitigés. 2 semaines après la qualification de l'Australie pour la Coupe du Monde de football 2018, le 22 novembre 2017, Postecoglou annonce sa démission du poste de sélectionneur des Socceroos. Il souhaitait mettre en œuvre une vision à long terme pour le football australien, mais se heurtait à des doutes des autorités quant à sa capacité à mener l'équipe au sommet. En fin de compte, Postecoglou a décidé de quitter son poste pour permettre à un nouvel entraîneur d'apporter une nouvelle vision et une nouvelle dynamique à l'équipe.
Alors finalement, cette démission a été un moment crucial dans sa carrière. C'est véritablement à ce moment-là qu'Ange a lancé sa carrière internationale avec des aventures au Japon et en Écosse, couronnée de succès.
En effet, Ange Postecoglou a également eu une expérience notable au Japon où il a dirigé le Yokohama Marinos de 2018 à 2021. Son passage au sein de ce club a été particulièrement réussi et marquant. En 2019, il a conduit Yokohama à la victoire du championnat japonais avec une approche qui mettait l'accent sur la possession et le pressing haut. Ce titre a été particulièrement mémorable au Japon car c'était le premier du club depuis 2004. Cette expérience a été essentielle pour se forger une réputation internationale reconnue dans le monde du football. Consécration suprême, il émigre en Europe où il prend les rênes du fameux Celtic de Glasgow. Il a rapidement réussi à établir son empreinte. L'un de ses nombreux succès est le doublé national 2022, ce qui a renforcé sa réputation en tant qu'entraîneur d'élite.
Ange Postecoglou a toujours eu cette réputation de construire des équipes compétitives et performantes dès sa prise de fonction. Comme il dit souvent, « I'm always winning something the second year ».
Ah oui, cette phrase résume parfaitement sa philosophie. Il s'engage à instaurer un processus de développement qui porte ses fruits en deuxième année. À Tottenham, l'intérêt pour Postecoglou s'est intensifié lors de son passage en Écosse. Les Spurs ont vu en lui un potentiel capable de redonner vie à un club à la recherche d'identité. Lorsqu'il a été nommé entraîneur, les attentes étaient élevées, son approche tactique a charmé les supporters. Il prône un football fluide, basé sur la possession et le pressing haut. Une philosophie qu'il a perfectionnée tout au long de sa carrière. Les joueurs ont immédiatement adhéré à sa vision et le style de jeu de Tottenham a commencé à changer. Le 29 avril 2024, Postecoglou a remporté le titre de manager de l'année aux London Football Awards. Postecoglou a finalement conduit Tottenham à la 5e place, qualifiant l'équipe pour l'Europa League. Cependant, le début de la saison suivante a été difficile. Malheureusement, la campagne a été entachée par des blessures, touchant plusieurs joueurs, entraînant des absences prolongées et contribuant à une mauvaise performance en championnat, où Tottenham a enregistré son pire classement en Premier League, terminant à la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation.
Un tel classement dans un club si prestigieux est pratiquement toujours destiné à un renvoi immédiat. L'Australien va-t-il rester, à votre avis, à son poste pour une troisième saison à Londres ?
Ah, ça c'est la question à 1 million de livres. Malgré ses défis, Postecoglou a réussi à mener Tottenham à un moment historique en remportant le premier trophée en 17 ans en battant Manchester United 1-0 lors de la finale de la Ligue Europa 2025. Cet exploit permet à Tottenham de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cependant, Ange est sous pression et le club semble sonder d'autres pistes. L'Australien, lui, a confirmé son désir de continuer en déclarant « Comme dans les bonnes séries, la saison 3 est toujours meilleure que la deuxième ». Quoi qu'il arrive, Postecoglou restera à jamais le premier entraîneur australien à remporter une compétition européenne.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Une douleur à l'oreille vous signale la fin du parcours. Soleil couchant, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
Et c'était Paris-Melbourne, une chanson qui doit parler à plus d'un d'entre vous. Chanson de Sophie Morin. Allez, courte pause en ce dimanche et on se retrouve dans quelques instants.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Eh bien, le plaisir d'avoir Thomas Feldstein, qui est le directeur de l'Alliance française de Perth. Bonjour à vous, Thomas.
Bonjour, Jean-Noël, et bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices.
On va parler des événements culturels à venir en ce mois de juin et aussi un save the date pour le mois de juillet. Il y a, d'après ce que je comprends, une exposition en cours en ce moment, Happy Luli Exhibition.
Oui, Happy Luli, oui, exactement. C'est une artiste française installée à Perth depuis plusieurs années maintenant, qui s'est spécialisée dans les aquarelles. Et donc, elle propose deux sortes de dessins, des dessins de soit d'animaux, soit de paysages de Western Australia qui sont absolument superbes. Et puis quelques dessins aussi un peu plus enfantins, on va dire, en tout cas destinés sur les enfants, avec des alphabets, avec des illustrations, quelques mots de français et d'anglais mélangés. C'est très très sympa et ça colore notre espace d'exposition. C'est très sympa.
Et j'imagine que les cafés conversations reprennent.
Oui, tout à fait. On a comme effectivement tous les mois, ce sont les événements réguliers, on va dire, hein, que ce soit le film en français, que ce soit les cooking class, que ce soit le café conversation, que ce soit le book club, hein, tout ça, on a cette offre là chaque mois. Et en effet, ce vendredi, euh, Toulouse parler français avec une soit un professeur, soit la directrice pédagogique qui anime la séance. Et puis, évidemment, un café, un croissant, ça aide tout de suite à la conversation.
Et on enchaîne, c'est le mois de juin, il y a un film night le lundi 9 juin.
Oui, c'est ça. Oui, toujours en début de mois. Donc cette fois-ci avec un film un peu pas un classique, mais presque. Hein, Les femmes du 6e étage. Donc ce sera le lundi 9 à partir de 6h30. Comme d'habitude, l'entrée et la séance sont gratuites. Puis après, ceux qui veulent acheter un verre de vin ou un snack, pas de souci. Mais moi, je tiens à cette gratuité de la séance et on a comme ça des gens qui viennent. Finalement, c'est leur événement mensuel. Ils viennent à l'Alliance juste pour ça. C'est très, très, très sympathique.
Et puis, il n'y a pas si longtemps que l'Alliance française French Film Festival a pris fin chez vous. J'imagine que ça a très bien marché.
Oui, on est très content cette année de cette édition. Nous avons atteint donc plus de 22 000 spectateurs ici en Western Australia. Donc là, c'est la session évidemment à Perth, mais aussi à Budbury, qui a été particulièrement un succès. J'en suis très très heureux, avec une augmentation très forte du public à Budbury et surtout une mobilisation des enseignants et des enseignantes de français. Donc autour de ce festival, ça c'était vraiment extraordinaire de les voir se rassembler autour de Frédéric Antoine, notre Education Manager. Et à Perth, en effet, un grand succès à la fois pour le public, hein, au total, mais aussi certains de nos événements qui ont été très, très, très appréciés. Je pense à certains Q&A sessions et une en particulier autour du film Michel Nimettre sur l'esclavage à l'île Maurice. Donc, ça a permis d'organiser une belle soirée en partenariat avec Curtin University et l'association culturelle mauricienne. Donc voilà, c'est des événements comme ça qui fonctionnent bien et dont je suis très fier, parce que c'est une vraie plus-value qu'on apporte au Festival du Film. Et voilà, c'était encore une belle édition.
Et je reviens sur le mois de juin, et vous enchaînez le mercredi 11 juin avec un cooking class.
Oui, en effet, on a à nouveau notre chef à domicile, puisque une chef pâtissière qui est aussi professeure ici à l'Alliance, Gunella, et qui nous propose une tarte. Alors, j'attends de voir, parce que moi, je connais pas cette recette. Mini tarte bourdaloue, là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bon, alors, j'ai compris qu'il y avait de la poire et de l'amande, mais... voilà, j'attends de voir. C'est l'avantage d'être le manager ici, c'est que je quand ça sent bon, je vais voir en cuisine et je prélève une petite part.
et le samedi 14 juin, vous enchaînez avec un special event sur le Tour de France.
Oui, en effet, alors c'était pas encore traditionnel, mais presque, hein, puisque c'est la troisième année que nous organisons cet événement autour du Tour de France, le Tour de France Sundowner, le samedi 14 juin à partir de 18h au Clermont Yacht Club. Là, c'est un événement dont je suis vraiment très très fier, parce que je l'ai initié il y a 3 ans, et avec mon équipe, nous travaillons depuis donc pour développer cet événement. L'idée est simple, c'est qu'on fait appel à des journalistes sportifs et à des cyclistes professionnels, des coureurs professionnels et des coachs, pour venir parler non seulement du Tour de France, mais aussi plus largement de l'activité du cyclisme. Cette année, on fait un petit focus sur le lien entre le cyclisme professionnel et le monde de l'entreprise, donc sur les thèmes de la résilience, sur les thèmes de team building, sur des choses comme ça. Et on aura Stephen Gallagher, qui est un des entraîneurs très connus ici en Western Australia. Et j'espère aussi en ligne un petit moment avec Ben O'Connor, le cycliste professionnel, j'allais dire emblématique de Western Australia, pour un moment en ligne avec lui, ça promet d'être sympa.
Et puis le lundi 16 juin, on repart avec le book club.
Oui, en effet, voilà, ça fait partie de nos activités régulières, le book club le 16 juin. Donc là, aucune exigence particulière, si ce n'est avoir lu un livre en français et puis venir en parler en français, quel que soit le niveau de français d'ailleurs, puisque évidemment, c'est toujours dans une atmosphère bienveillante et toujours inclusive pour favoriser la diffusion de la culture française.
Et puis le 20 et le 24 juin, deux événements autour du vin.
Oui, alors un événement avec notre partenaire Propelis, qui est un couple d'importateurs. amateurs de vin pour un wine tasting, en effet, le vendredi soir, comme en 20 juin. Et puis, on profitera aussi de la bonne, du savoir-faire du charcutier, de Crafty Meat, qui est une institution ici à Perth, un charcutier français. Et puis, en effet, alors, cette fois-ci du vin, mais aussi, de l'art, avec une présentation sur Niki de Saint-Phalme. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un film consacré à Niki de Saint-Phalme au programme du French Film Festival. Eh bien, on continue sur cette lancée avec cette présentation par donc Caroline Muscat, qui est peintre et également professeur de français ici. Et donc, on aura cette présentation en anglais sur Niki de Saint-Phalme.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et on pourrait peut-être parler d'un save the date pour le 14 juillet, qui sera célébré le 12 juillet, c'est un samedi.
Oui, absolument. Donc là, on garde notre traditionnel Bastille Day Dinner au Clermont Yacht Club pour une soirée, évidemment, avec du bon vin, de la bonne nourriture, de l'animation, un raffle avec cette année deux tickets pour Paris à gagner, offerts par Singapore Airlines et Globetrotter Voyage. Et une ambiance toujours très très agréable, voilà, où les gens dansent, où les gens s'amusent beaucoup. Et ce sera pour moi, puis-je l'annoncer, et bien le dernier événement auquel j'assisterai, puisque vous savez peut-être, Jean-Noël, je suis donc sur les derniers mois de mon mandat ici à l'Alliance française de Perth, et je partirai ensuite à la fin du mois de juillet pour d'autres aventures.
Puis Thomas, je note que je ne vais pas vous oublier, je vais vous rappeler pour parler d'un bilan de vos 4 ans passés en Western Australia.
Ce sera avec grand plaisir.
Est-ce qu'on peut prévoir un autre événement, un café scientifique prochainement?
Alors, nous cherchons effectivement à renouveler cette proposition de café scientifique que nous avions assez régulièrement les années précédentes en partenariat avec le WMZ. La difficulté, c'est de trouver le bon moment, le bon lieu, la bonne présentation. C'est pas toujours évident, mais je ne désespère pas, puisque vous savez sans doute que donc il y aura lieu très prochainement une conférence sur les océans à Nice. Et nous avons ici en Western Australia plusieurs spécialistes de ces questions. Et j'aimerais bien en effet organiser une présentation spécifiquement là-dessus. C'est pas encore tout à fait calé, mais on espère avoir ça prochainement.
Et peut-être un dernier message, Thomas, sur les cours de français.
Oui, sur les cours de français, tout va bien. Là, on est au milieu du terme, du terme 2. Le terme 3 commencera donc après les congés scolaires mi-juillet, et nous avons toujours une bonne activité autour des cours de français, notamment les enfants. Là, on est mardi matin, il y a quelques cours enfants, donc j'ai fermé la porte pour pouvoir faire cette interview, mais ça fonctionne bien, toujours avec une bonne ambiance et des parents et des enfants qui sont toujours ravis de venir à l'Alliance.
Merci à vous, Thomas, et à très bientôt.
Merci Jean-Noël et au revoir à tout le monde.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/French.
C'est tous ces écrous, c'est pas moi qui sais.
Autour de ton cou, Stéphane Escher, le chanteur suisse qui revient avec un nouvel album. Donc, cette chanson phare de cet album, Autour de ton cou. Donc, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Il y a un an, la Nouvelle-Calédonie s'embrasait et connaissait plusieurs semaines de violences terribles. Il y a eu un bilan humain très lourd, mais il y a aussi eu des dégâts matériels très importants et des conséquences économiques énormes sur l'archipel. Comment on évalue la situation sur place aujourd'hui, un an après le début?
Elle est extrêmement critique, hein. Le tissu économique est complètement ravagé. Il y a énormément d'investisseurs, de patrons, d'entrepreneurs qui ont mis la clé sous la porte. Il y en a beaucoup qui partent. Et ceux qui restent hésitent vraiment à réinvestir. En particulier parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir pour le moment, hein.
Alors la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans cette interview. À l'époque, au début des violences en Nouvelle-Calédonie et dans les mois qui ont suivi, on a vu certains bouleversements politiques en métropole, entre des élections législatives anticipées, pas mal de changements de ministres aussi. Comment est-ce que l'instabilité politique en France métropole a affecté la réponse apportée à la situation qui était urgente et qui reste urgente en Nouvelle-Calédonie?
Le premier élément, c'est qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin de l'année dernière, le dossier calédonien est tombé en déshérence du point de vue de l'État, évidemment, puisqu'en fait, on ne peut pas traiter un dossier aussi chaud dans un contexte de gestion des affaires courantes au niveau politique de l'État, et que le niveau de tension entre indépendantistes et loyalistes était tel qu'il fallait absolument que l'État puisse reprendre la main et faire une espèce de médiation. Donc cette situation, elle a perduré pendant très longtemps, on le sait, d'abord pendant tout l'été. Le premier gouvernement Barnier a commencé à renouer les fils du dialogue et paf, il a été de nouveau renversé. Et puis, depuis le début de l'année, c'est Manuel Valls qui a repris le flambeau. Mais on sait par ailleurs que ce gouvernement, il est très menacé, toujours. Que Manuel Valls lui-même, il est très menacé au sein du gouvernement, hein. Il y a des tensions très fortes, même à Paris, quoi, entre Retailleau, Darmanin, Lecornu, qui sont plutôt hostiles au projet qu'avait porté Valls. Donc, il y a pas mal de tensions qui continuent de fragiliser tout ça. Alors, à minima, je pense, mais on est à l'abri de rien, mais je pense que les parlementaires français ont compris que de voter de leur côté unilatéralement le dégel du corps électoral, comme le prenaient les loyalistes l'année dernière, c'était pas une solution, parce que si vous braquez les indépendantistes, en fait, les Kanaks, ils sont prêts à tout pour se battre pour leur indépendance et leur décolonisation. Mais maintenant, on rentre en plus dans une période d'instabilité terrible, puisque va y avoir les élections provinciales de Calédonie, les municipales de 2026 et finalement les présidentielles de 2027. Et c'est à se demander si une solution réelle va pouvoir se dégager, puisqu'il faut un État stable. Et comment est-ce qu'on aura un État stable avant 2027? C'est une gageure. Donc cette instabilité politique au sein de l'État et les tensions internes au sein de l'État français à Paris a un impact direct sur l'état du débat à Nouméa.
Le projet de loi sur le dégel du corps électoral, il a été abandonné par le gouvernement de Michel Barnier, c'était en octobre dernier. Depuis, vous l'avez dit, la France a un autre Premier ministre, François Bayrou, qui a fait de Manuel Valls, son ministre des Outre-mer. Alors, vous l'avez dit, il s'est rendu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur en quoi a consisté son travail en Nouvelle-Calédonie? Comment il a tenté de renouer le dialogue?
Manuel Valls, il a vraiment tenté de fermer cette parenthèse en réalité, cette séquence de 3 ans où l'État a fait dévier la trajectoire de la Calédonie parce qu'il a changé d'attitude politique. Il s'est remis dans l'héritage rocardien. Il a compris que de toute façon, il n'y aurait pas de solution en Calédonie si la revendication de décolonisation des Kanaks n'était pas achevée. Donc il a dit clairement, il faut achever enfin la décolonisation. Et c'est ce qui a amené d'abord tous les gens à se mettre autour de la table alors que depuis un an, il parlait plus. Donc il a réussi, et ça c'était une réussite. Et puis au bout du bout du bout de ce travail, il a proposé ce projet de souveraineté avec la France, qui est finalement une sorte de compromis, sans doute à peu près le seul qui puisse marcher en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il à la fois il satisfait la revendication kanak de pleine souveraineté et il assure des garanties à ceux qui sont partisans du maintien dans la France. Et c'est cette solution, finalement, autour de laquelle la Calédonie tourne depuis 40 ans, on a beau dire, on a beau faire, on a beau chercher, c'est vraiment celle-ci qui est sans doute la voie de compromis qui permettrait de sortir le pays de l'ornière. Ça a été refusé par les loyalistes. Donc maintenant, il a été complètement désavoué et par les loyalistes et par les appuis des loyalistes à Paris, que sont messieurs Lecornu, Darmanin, Retailleau et sans doute aussi Emmanuel Macron. Donc maintenant, on est complètement dans la panade. En quelques jours, les loyalistes se sont mis à dire que Manuel Valls, en fait, il avait promis l'indépendance, qu'il les avait trahis, qu'il avait tué les négociations, etc. Donc maintenant, on en est au point mort.
En mars dernier, vous avez sorti un livre, Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie, pour tenter de comprendre l'embrasement de l'archipel il y a un an. Et vous évoquez notamment une situation qui couvait depuis longtemps, mais vous questionnez aussi l'efficacité des accords de Nouméa.
Oui, ces accords de Nouméa, ils ont ouvert un processus de décolonisation inédit et tout à fait intéressant, assez unique dans le monde, puisque c'était l'idée d'une accession progressive du pays à la pleine souveraineté avec un transfert progressif et irréversible de compétences, la reconnaissance de l'identité kanak au centre du dispositif et puis la construction d'une citoyenneté calédonienne qui est un espace de réconciliation entre les kanaks et les non-kanaks implantés dans le pays depuis très longtemps. Donc, ce projet, il a donné des fruits incontestables et c'est un très bon accord. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que le souffle politique et l'espoir de 1998 s'est peu à peu amenuisé dans le temps et en particulier que certaines mesures phares, comme justement le gel du corps électoral, qui est un droit lié à cette citoyenneté calédonienne, la loi de protection de l'emploi local, qui est un autre droit lié à la citoyenneté calédonienne, le choix des signes identitaires du pays, la reconnaissance préalable de l'identité kanak dans tous les aspects de la vie sociale. Ces éléments cruciaux-là, ils ont été très largement, disons, court-circuités, attaqués, reniés au fil des années. Et ça, c'est aussi lié à un autre héritage paradoxal des accords, qui a été que, non pas en 98, mais déjà en 88, au moment de l'accord de Matignon, des accords de Matignon signés sous l'égide de Michel Rocard, la paix était revenue en partageant le pouvoir, et notamment dans l'espace, c'est-à-dire en créant trois provinces dont on savait que deux d'entre elles, en raison du découpage géographique et démographique, serait aux mains des Kanaks, la province nord et la province des îles Loyauté. Mais en revanche, la province sud, où se trouve Nouméa, par contre, restait un fief loyaliste. Et cette logique de fief loyaliste n'a jamais cessé. En réalité, elle s'est même renforcée, avec presque un syndrome de citadelle assiégée. Donc c'est une façon de dire que le processus de décolonisation, tel qu'évoqué dans les accords, finalement, à bien des égards, il s'est arrêté aux portes de Nouméa. Nouméa a pu continuer à prospérer comme une ville blanche, en grande partie avec des quartiers très ségrégués, avec des zones où finalement les Kanaks sont pas vraiment les bienvenus. Et donc, c'est le lieu où les tensions coloniales et raciales héritées de ce passé colonial se sont le plus exacerbées. C'est vraiment à Nouméa que se concentrent les populations et aussi les inégalités et les discriminations. C'est là où elles sont le plus visibles parce qu'elles sont voisines. Donc c'est de là qu'il y a une cocotte minute en fait qui s'est constituée à Nouméa et qu'on savait que ça risquait d'exploser à la moindre étincelle. C'est bien pour ça que quand les loyalistes et le pouvoir politique macroniste a voulu dégeler le corps électoral, la plupart des observateurs leur ont dit ne faites pas ça parce que vous allez mettre le feu dans un contexte déjà très inflammable.
Alors vous l'écrivez aussi, vous dites qu'à long terme, la Kanaky Nouvelle-Calédonie explosera de nouveau si aucune réponse politique et sociale n'est apportée à la revendication kanak de souveraineté et d'indépendance. En fait, vous le redites, un avenir pacifique dans l'archipel, il passe essentiellement par l'indépendance kanak.
Oui, les Kanaks le disent avec leurs mots. D'ailleurs, Tjibaou l'avait déjà dit en 87, les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Et ces mots-là, les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance, content ou pas content, ils ont refleuri en mai 2024 partout à Nouméa, sur les murs, etc. C'est une façon de dire que cette revendication, elle se transmet de génération en génération. Et que ceux qui se sont insurgés l'année dernière, ce sont les enfants des accords, ce sont ceux pour qui les accords étaient faits. Donc ça dit bien que on a beau avancer, que tant que cette revendication de recouvrement de souveraineté, elle ne sera pas assouvie, il y aura toujours ces tensions, toujours cette insatisfaction. C'est bien pour ça que la vraie solution consiste à trouver une forme de recouvrement de souveraineté qui rassure les autres, les non-kanaks, qui leur amène des garanties pour faire en sorte que tout le monde s'engage dans la construction d'un pays émancipé, où chacun a sa place et où le lien avec la France est redéfini. L'enjeu très fort, et ça parlera aux gens de SBS évidemment, En Calédonie, les gens regardent beaucoup vers l'Australie. Et la crainte des Kanaks, c'est d'aboutir à la situation des aborigènes d'Australie, c'est-à-dire d'être ultra minorisés dans le pays, et que finalement l'indépendance du pays soit une indépendance blanche, tout à fait comme ce qu'ils ont vécu avec l'indépendance de l'Australie vis-à-vis de la Grande-Bretagne, qui n'a pas amélioré la situation, la suggestion coloniale et l'aliénation coloniale qui pèse sur les peuples aborigènes. Donc, l'enjeu est de trouver une autre solution. Comme les Kanaks représentent 40% de la population, ils ne sont pas minorisés comme le sont les aborigènes d'Australie. Et donc, il faut travailler sur ces enjeux-là. Mais tant que ces revendications-là ne sont pas satisfaites, il y a fort à parier que le pays explosera encore et encore et encore parce que les Kanaks n'abandonneront jamais cette revendication d'indépendance.
Eh bien, merci Benoît Trépied d'avoir été avec nous pour nous parler de la situation en Nouvelle-Calédonie un an après les émeutes et pour nous avoir présenté votre livre Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie, disponible aux éditions Anacharsis. Merci Benoît et à bientôt sur SBS.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
La chanson de France Gall, évidemment, chanson écrite par Michel Berger et qui pleure les regrettés Daniel Balavoine et bien entendu Coluche. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Revenons au thème de Heure d'été. Je l'ai vu comme la vie et ses cycles. Le temps. J'ai vu comme la mort et les bouleversements, parce que une mort change toujours les relations entre les gens. Les choses qui sont enfouies remontent à la surface. Les secrets sont soit dévoilés, soit perdus à jamais. Et puis, c'est la dispersion des racines.
Ben, disons que je le vois aussi comme une sorte d'appel d'air. Enfin, dans le sens où tout d'un coup, c'est pour moi la mort, au-delà de tout ce que vous dites, c'est aussi une absence. C'est un vide qui se crée et le paradoxe et la cruauté du vivant, c'est que la question se pose aussitôt de comment ce vide va être rempli et de qu'est-ce qui va se substituer à lui. C'est aussi bien du point de vue matériel que d'un point de vue même plus abstrait. Et donc, j'avais fait un film il y a longtemps maintenant qui s'appelait fin ou début septembre, dont le sujet était vraiment le deuil, enfin la disparition d'un écrivain, quoi, et au fond de ce qui restait de lui, quoi, les traces qui restaient de lui, qui disparaissaient au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, j'avais envie plutôt de raconter comment on passe d'une génération à l'autre et comment on passe des valeurs d'une génération aux valeurs d'une autre génération. Et comment les choses qui se transmettent, c'est-à-dire celles qui passent par les différentes strates, hein, d'une même famille, se transforment dans ce processus.
Mais dans chacun des personnages, il y a un moment et de vie et de temps, mais aussi une vision différente de l'avenir. Il y a Hélène qui est la gardienne du temple, mais qui est très lucide, elle dit, mais vous n'avez pas, vous, à continuer ce que moi j'ai fait, parce que vous avez un rôle différent à jouer, vous n'avez pas à être les gardiens de son tombeau. Elle est très lucide de ce point de vue-là. Il y a Frédéric qui, même s'il ne veut pas parler de succession, parce que l'idée de la mort de sa mère le gêne énormément, il est celui qui finalement reprendrait le flambeau s'il en avait la chance. Il y a Adrienne qui a quitté la maison, on ne sait pas pourquoi vraiment. Un début d'explication que donne son frère cadet, Jérémy, qui lui est carrément parti et il a quitté la France. Il y a cette gradation de distance vis-à-vis du passé commun.
Disons que, en tout cas, ils sont tous aux prises avec une chose qui leur est commune, c'est la transformation de la société. Hein. C'est la façon dont le monde change, dont le monde évolue, et dont, au fond, ils sont au-delà d'être témoins, ce sont les acteurs. Hein. Il y a au sein de cette famille l'écho de la façon dont le monde évolue. Je pense que cette transformation, où admettons que le rapport aux racines, le rapport au passé s'amenuise au profit d'un rapport au présent et une connaissance d'un monde plus vaste, quoi. C'est-à-dire on voyage plus loin, plus vite, plus longtemps, on est plus facilement au courant de ce qui se passe dans le vaste monde. Et au fond, plus on en est conscient, plus étrangement notre rapport à l'histoire verticale de notre culture s'amoindrit, ou en tout cas est remise en cause sous la forme sous laquelle elle nous a été transmise jusqu'ici. Enfin, j'ai le sentiment d'appartenir à une génération qui a été préservée de se poser la question de son rapport au passé. Elle a été préservée parce que la génération d'avant l'en a protégée. De la même manière, Hélène protège ses enfants de devoir se définir par rapport à leur culture, leur racine, encore une fois, et même leur pays. Mais simplement, elle est elle-même infiniment plus lucide qu'eux quant au monde et au devenir parce qu'elle s'est posée ces questions-là. Adrienne, Frédéric ou Jérémy se les sont posées abstraitement, de façon très rapide, brève, parce qu'ils ont été trop, les uns et les autres, pris dans leur existence, pris dans leur propre vie, leur propre travail, leurs propres amours sans doute, et donc n'ont pas, comme Hélène, eu la nécessité de se définir. Mais simplement, le jour vient où on ne peut plus éluder la question. On est obligé d'y faire face, on est obligé d'y répondre. Une réponse sans savoir si elle est bonne ou mauvaise, mais enfin qui est celle selon laquelle on va se conduire, on va se définir. Et Adrienne, par exemple, je crois, comprend des choses. Frédéric aussi comprend des choses. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport intuitif à leur famille, aux choses qu'Hélène leur transmet. Frédéric, parce que c'est l'aîné, il se considère un peu
responsable
d'une histoire et qu'au fond, que ce qui lui a été transmis, ce sera de son devoir de le transmettre à la génération suivante. Enfin, il est en ce sens un peu d'une autre époque encore. Adrienne, elle, par contre, a absorbé ce monde-là. Elle est artiste, donc elle a vu avec des yeux d'artiste le monde qu'avait créé autour de lui son grand-oncle Paul Berthier. Elle a vu ses objets, elle a baigné dedans et au fond, son art est né de ça. Si elle est artiste aujourd'hui, c'est parce qu'elle a vécu dans ce monde-là et qu'elle l'a intériorisé, donc elle le porte en elle. Et d'une certaine façon, elle a tendance à considérer qu'il n'y a rien à hériter, puisque au fond, elle a déjà tout plié à sa manière. Jérémy, par contre, lui, est pragmatique, comme beaucoup de jeunes gens de son époque. On peut imaginer qu'il a fait une école de commerce, qu'il s'est marié, ses enfants sont nés, son travail l'a porté ailleurs. Et bien voilà, lui, ce qui lui importe, c'est le bien-être des siens, dans un monde qui est très différent, dont même la géographie est différente pour lui. Cette maison de Valmondois représente peu de choses pour lui, mais d'une certaine façon, on peut dire que même la France n'est plus le centre du monde non plus. Le centre du monde, il est là où l'économie a lieu, là où l'histoire se fait, c'est-à-dire dans les sociétés qui sont aujourd'hui en développement, comme encore en Chine, en Inde, là où le monde change.
Mais Jérémy, c'est aussi celui qui était le cadet, donc peut-être moins influencé par la mère, et certainement le plus critique de la mère. Parce qu'il a cette phrase qui est assez acerbe en disant « mais elle n'était pas fière d'être mariée à un commerçant, à un industriel. Elle aurait voulu être mariée à un artiste. » Et dès le lendemain de sa mort, elle a changé son nom. Elle est revenue à son nom de jeune fille. Et il est le seul à dire ça. Et c'est quelque chose qui ne lui pardonne pas.
Oui, oui. Disons que peut-être parce qu'il a perdu son père jeune, il est plus attaché à son père. Et il fait revenir cette idée quand même. Enfin, admettons qu'il ramène une dose de réalité pragmatique hein, dans son regard sur sa mère. Il a cette espèce de franchise brutale, ou de la même manière qu'il est relativement indifférent au fait qu'elle ait eu ou n'ait pas eu une aventure avec son oncle. Ça le fait un peu rigoler parce que, au fond, c'est quelqu'un qui s'intéresse que aux choses tangibles et que donc il a une vision dont on peut dire qu'elle est à la fois lucide, dont aussi qu'elle est un peu cynique.
En fait. Oui, mais en même temps, c'est lui qui était presque le plus choqué aux révélations de la mère.
Disons que le plus choqué, c'est Frédéric, parce que Frédéric, lui, refuse d'y croire. Enfin, ça lui est.
Oui, il y a ça.
Autant Frédéric refuse d'y croire, Adrienne, elle, est obsédée.
Ça la libère.
Ça la libère, enfin, dans le sens où elle est obsédée par le désir que ça ait eu lieu pour pouvoir le dénoncer. Et tandis que, ou en tout cas, ou pour le mettre à jour à sa façon. Et autant Jérémy, au fond, considère que ce n'est pas son histoire. Ça ne
Mais.
La moitié.
Celle qui est liée à la maison organiquement et par le passé, par le temps, c'est Héloïse. Et c'est un personnage effacé, un personnage de tâcheron, un personnage qui est constamment dans les coulisses, mais qui est fondamental à cette maison et c'est elle qui est le plus affectée par la mort. et par le passage du temps.
Parce que c'est son monde, elle n'en a pas d'autre, et elle n'a pas tellement voix au chapitre. C'est-à-dire que Héloïse est attachée à cette famille, elle est attachée à cette maison, elle a tout vu, elle en a vécu toutes les périodes, elle a été partie prenante de tout ça, mais elle est la bonne, donc comme on l'était dans l'ancien temps, elle est d'une autre époque, enfin c'est vraiment la Françoise de Proust. Et quand cette maison va être vendue, quand ce monde va disparaître, parce qu'au fond, c'est pas tellement la maison qui est vendue, c'est un peu le
c'est
monde,
un monde
de Paul Berthier
qui disparaît.
C'est le monde de Paul Berthier qui se dissout, quoi, et c'était le seul monde qu'elle ait connu. Mais surtout, ce qui m'importait, c'était dans le rapport aux objets, donc au rapport à l'art, de montrer quelqu'un qui garde un rapport pur, dans le sens où les objets sont là dans cette maison de toute éternité, qui tout d'un coup, du fait de la succession, se trouvent porteurs de valeur, hein, d'une valeur monétaire.
Marchande
et artistique, parce qu'ils rentrent dans l'histoire de l'art, pour Héloïse, ne représentent que qu'ils peuvent avoir d'invisible et de beauté invisible, enfin de beauté naturelle.
Un vase, c'est pour les fleurs.
Un vase.
Et d'ailleurs, elle prend ce vase très précieux
voilà.
pour mettre des fleurs dedans. Et c'est magnifique.
Voilà. Oui, oui, de la même façon qu'elle l'avait toujours fait. C'était le vase qu'elle aimait bien. Personne s'intéressait à ce vase. Elle se fichait de sa valeur, mais elle savait voir sa beauté. Et d'une certaine façon, j'aimais bien l'idée dans le film de raconter ces deux histoires parallèles de ces deux vases. C'est-à-dire l'un qui finit en captivité dans le musée et l'autre qui reste en liberté, à l'état sauvage, disons, dans le petit studio.
Où elle va habiter désormais. Ne sachant pas naturellement qu'elle possède une œuvre très recherchée et très chère. Oui. C'est très beau, oui. Mais il y a aussi cette tristesse. Je crois qu'il y a toute la gamme des émotions et il y a cette compréhension de la part de l'aîné de la famille qui lui dit « Choisis ce que tu veux ». Et ça aussi, c'est une grande générosité. En d'autres termes, il apprécie à ce moment-là que cette partie de sa vie se termine et son monde disparaît et il veut qu'elle emmène un souvenir.
Ah oui, oui, qu'elle reste dépositaire de quelque chose, voilà, qu'elle reste dépositaire de quelque chose. Et en même temps, quand elle choisit le vase, il a un petit sourire parce qu'il vient d'assister à la scène où l'expert
l'a évalué,
a dévoilé la valeur de cette œuvre. Et au fond, il le considère comme une sorte de pied de nez à ses frères et
oui,
sœurs.
Oui, absolument.
Au fond, et au dessin.
C'est son moment de d'ironie.
Voilà. Voilà.
Non, mais ça, c'est très beau. Mais c'est là, encore une fois, ce film, c'est une tapisserie. Mais c'est une tapisserie en ton très, très nuancé. Il y a beaucoup de non-dits, il y a des regards, il y a des pénombres, il y a des contre-jours. Vaguement, on entend une conversation. Il y a toute une sorte de texture tout à fait naturelle de la vie de tous les jours, en quelque sorte, mais dans une situation, dans ce cas, qui est à un moment particulier de la vie de la tribu.
Oui, et puis je crois que le travail sur les nuances, sur le détail, s'est imposé à moi presque naturellement parce que quand je raconte une histoire comme celle-là, j'ai besoin d'être avec tout le monde simultanément. J'ai besoin que chacun, au moment où il parle, soit sinon au porte-parole, en tout cas j'ai besoin d'adhérer pleinement à ce qu'il est en train de dire. Enfin, en tout cas de comprendre parfaitement les nuances justement de son raisonnement et que au fond, même s'il y a des personnages et certains des réflexes dont je me sens plus proche. C'est pour moi, c'était vital que chacun ait droit à ses raisons, ait droit à ma compréhension et j'espère aussi à celle du spectateur.
Mais en même temps, on a cette impression de naturel. Et ce film nous renvoie à notre famille. Et on se rend compte que Frédéric, en dépit de son incroyable envie que tout continue, doit accepter, il l'accepte de très bonne grâce, mais avec beaucoup de nostalgie en lui-même, que c'est différent pour ses frères et sœurs et que c'est la décision commune qui va prédominer et il doit s'adapter, il l'accepte, avec une pointe de tristesse, mais il accepte l'inévitable. Et
bah,
Frédéric, il est le fil conducteur.
Oui, bien sûr, mais il accepte surtout que le monde change. Il accepte au fond que les valeurs, admettons, dans lesquelles il a été élevé, qui sont des valeurs anciennes, d'un autre monde, qu'elles ne peuvent pas s'imposer avec l'évidence ou la nécessité absolue qui est celle qu'on lui a enseignée et dont il a toujours été convaincu. Il apprend comment le monde a changé et comment, au fond, ce monde est déterminé par des valeurs qui sont...
Pas très élevées, finalement.
Oui, mais enfin, lui n'a pas pris sur elle, quoi, voilà. C'est-à-dire que c'est la société qui a changé. Et que ses frères et sœurs, lui-même, sont déterminés par des transformations qu'ils dépassent, qui sont l'histoire, enfin, l'histoire contemporaine, l'histoire moderne. Et même s'ils sont en désaccord avec la façon dont le monde change, même s'ils préféreraient que le monde soit autrement, il y a quelque chose d'inéluctable. Et je crois que Frédéric finit par trouver sa place dans l'inéluctable.
Mais en même temps, il a eu aussi une bonne leçon de réalisme avec les frasques de sa fille.
Disons que sa fille, les adolescents font des bêtises, et surtout surtout rendu compte qu'elle avait grandi.
Voilà.
Parce que là, il voyait une petite fille, et puis tout d'un coup, il y a une sorte de réveil matin.
C'est une jeune femme.
qui lui signale que c'est une jeune femme. Mais d'une certaine façon, c'est la même chose pour le spectateur. C'est-à-dire
absolument.
Parce que jusque-là, pense qu'elle appartient au monde de l'enfance. Et puis, elle va tout d'un coup dire, non. Et on commence à se dire, peut-être qu'elle pense quelque chose, elle, de ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'elle aussi a un point de vue. Et on va pas tarder à le découvrir, effectivement.
C'est le mot de la fin, d'ailleurs, elle dit, parce que ma grand-mère est morte et la maison est vendue. Et elle a le dernier mot de la nostalgie.
Oui.
En ayant l'avenir devant elle.
Bien sûr, mais parce qu'en fait, évidemment, elle est très jeune et elle n'a pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressent, mais elle est parfaitement lucide, elle voit très bien ce qui a lieu, et puis d'une certaine façon, elle est même celle qui est la plus lucide, parce que elle sait que ce qui est perdu, encore une fois, c'est pas tellement les objets, c'est pas tellement les murs, c'est pas tellement les tableaux. Au fond, c'est plutôt les fantômes, quoi. En fait.
L'âme, les âmes successives qui ont habité cette maison, et qui sont là, probablement, encore.
Voilà. Les lieux qui ont été, peints par son grand-oncle, Berthier, et surtout les fantômes. Et à la fin, elle les voit apparaître, ces fantômes. C'est-à-dire, quand elle est dans le pré avec son petit ami, elle voit sa grand-mère avec Paul Berthier. Elle voit ce cerisier qui a été peint par lui dans un tableau qu'elle a dû entrevoir enfant. Et elle a ce sens, encore une fois, de ce monde invisible qui est la chose la plus précieuse, qui est la perte la plus cruelle. Il n'y a qu'elle qui sache le dire.
Mais c'est là où je pense, Olivia Sayas, que vous avez fait un film qui est à la fois tendre, légèrement amère par moments, qui nous force à réfléchir, qui nous renvoie aussi à notre image de nous-mêmes, de la famille, du temps, de la vie, de la mort, du passé, du présent, et comment nous aussi on accepte ou n'acceptons pas les changements.
En racontant cette histoire, j'avais le sentiment de toucher à quelque chose qui est universel, dans le sens où nous avons chacun notre expérience de tout ça. Et donc, c'est un film dont les creux, dont les ellipses sont faits pour être remplis par le vécu de chacun et de façon à ce qu'à chacun puisse se l'approprier à sa façon, le faire résonner avec sa propre histoire. Que d'une certaine façon, c'est un film qui est fait de sensations et ces sensations, elles sont faites peut-être pour compléter ou expliciter celles que chacun a en lui naturellement devant ces événements-là.
Mais ça m'a aussi rappelé le dimanche à la campagne, par les tableaux, parce qu'il y avait, quand on voyait la famille, quand on voyait ces petites contrariétés, quand on voyait ces nuances, etc., ces regards, des phrases qui n'étaient pas achevées, des petites interrogations, des petites irritations. J'avais l'impression de voir dimanche à la campagne avec une nostalgie légère.
Moi, je crois que c'était surtout la cerisée, c'est-à-dire dans le sens où
donc il y a la frustration aussi des personnages.
Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'universel dans ce thème. Il y a un très beau film aussi de Roger Lénard qui s'appelle Les Dernières Vacances, qui racontait aussi cette disparition d'une maison. Je crois que c'est un thème archétypal, mais qu'au fond, chacun d'entre nous peut raconter à sa manière, habité par ses propres
fantômes et ses propres souvenirs.
Ses propres souvenirs.
Olivia Sayas, vous travaillez sur un nouveau film maintenant?
Oui, là, je suis en plein tournage. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que j'y retourne.
Je vais vous libérer. Vous pouvez nous en dire quelques mots ou c'est un secret?
Non, c'est pas secret, mais disons que c'est très différent de... En fait, c'est l'histoire de Carlos. C'est un film donc sur le terrorisme.
Ah oui? Alors là, vraiment à l'autre bout du spectrum. Donc vous passez d'un genre à l'autre?
Oui, là, assez radicalement. Ça s'est trouvé comme ça, c'est un peu un hasard, mais c'est extrêmement passionnant. Et puis c'est un projet très complexe, lourd. C'est un tournage qui va mener jusqu'à l'été, donc c'est une vaste entreprise.
Vaste entreprise. Une bonne continuation, Olivia Sayas, et merci.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/French.
Deux pas de travers et deux pas de côté. Entre méchants en reculant, pas en arrière, mais en avant. Ceux qui la dansent, le cul par terre, sont des qui jattent par entière. Mla, 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 attitude.
Et c'était La Danse des Négresses Vertes, une chanson qui sent bon les années 80 en France. Voilà. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.u/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.u/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.